question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Chantal Loureau.
Intelligence artificielle, algorithmes, robotique, cybersécurité, ces domaines porteurs vont-ils permettre aux femmes scientifiques de briser le plafond de verre? Comment casser les stéréotypes qui dissuadent les filles de s'orienter vers les sciences du numérique? Quels sont ces nouveaux métiers encore méconnus mais passionnants? Comment rendre accessible ce qui peut paraître inaccessible? Les décodeuses du numérique, une bande dessinée ludique publiée par le CNRS, nous donne quelques pistes.
Bienvenue dans l'ère du numérique, ta vie publique numérique, ta vie privée numérique, ta profession numérique, ton matricule numérique, tu prends ton dû en numérique, chaque action tu la numérises, en BDD t'es qu'un numéro, t'as pas de recul, t'es né dedans, tout ton time devant ton écran, ça désespère tes grands-parents, au moindre oubli, t'auras toujours dans ton drive un rappel, un exemple de ta décroissance intellectuelle, tu ne crois que ce que tu vois, mais sur Google tu peux tout voir, on a inventé un outil qui rend disponible le savoir, sauf qu'on a oublié que l'homme est fainéant, tu peux oublier ta tête maintenant que t'as internet. Eh ouais, en fait mon gars t'as la flemme. Tu vas pas perdre du temps à faire ce qui est déjà fait. Le problème c'est que tu te perds, tu ne sais même plus ce que tu fais, ni pourquoi tu le fais. Tu te crois important mais crois-moi qu'ils se servent de toi. C'est 5% contrôle le game qui dit qu'ils n'utilisent pas tes données secrètes. Ou pire même tes recherches internet comme un moyen de presse pour que tu restes dans le rang.
Éducation numérique, le rappeur Nolupia. Je doute un peu que nos invités partagent la même vision du numérique, mais c'est un clin d'œil. Anne Siegel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche en informatique et directrice adjointe scientifique au CNRS. Claire Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous êtes l'une des 12 décodeuses de la bande dessinée. Vous travaillez sur les algorithmes. Sarah Cohen-Boulakia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure et chercheuse à l'université Paris-Saclay et vous êtes vous aussi l'une des héroïnes de cette BD. Vous préférez vous présenter comme bio-informaticienne. Vous nous expliquerez tout à l'heure en quoi consiste votre travail. Mais d'abord, on va parler de la genèse de cette bande dessinée, les décodeuses du numérique. Quand on pense au CNRS, Anne Siegel, l'humour n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. Alors pourquoi cette BD pleine de gaieté, aussi bien dans les bulles que dans les traits de l'illustratrice Léa Castor?
Bien, en fait, on s'est posé la question lorsqu'on a voulu réfléchir à la promotion de la parité dans nos laboratoires d'informatique au CNRS sur le fait d'adopter un regard décalé et d'incarner la science faite par nos chercheuses et nos enseignantes-chercheuses. Et on avait aussi envie de parler à nos scientifiques, mais aussi au public, en particulier collégiens et lycéens. Et finalement, notre choix s'est porté sur l'idée d'un format BD qui était vraiment décalé, mais qui permettait d'incarner, entre guillemets, la modernité du numérique, qui n'est pas nécessairement ce que les personnes ont en tête.
On est très loin de la parité dans le monde des sciences. La proportion de femmes dans la recherche tourne autour de 33%, toutes disciplines confondues. Au CNRS, combien de femmes travaillent dans les sciences du numérique ?
On est autour de 20% de femmes enseignantes, chercheuses et chercheuses au CNRS.
Donc il y a une grande marge de progression.
Énorme.
Et vous espérez atteindre la parité, puisque c'est l'objectif officiel du CNRS, à quel horizon ?
Alors, un certain nombre d'analyses ont montré que si on n'a pas de politique proactive, on atteindra la parité dans 100 ou 120 ans. Ça dépend des pays, entre guillemets, mais donc ce sera dans longtemps. On espère arriver à cette parité beaucoup plus vite. Il y a quand même une inertie actuelle. Donc, je pense que si on y arrive dans 10 ou 15 ans, on sera très, très content.
Mais une politique proactive, ce serait quoi, par exemple ?
Ça veut dire changer le regard du numérique, attirer des candidates vers le numérique et des futures enseignantes-chercheuses et chercheuses, et faciliter aussi les promotions de nos chercheuses et enseignantes-chercheuses pour que justement le monde devienne plus paritaire.
Alors comment avez-vous choisi ces 12 héroïnes de la BD qui sont donc devenues les décodeuses du numérique ?
Alors, en bon algorithmicien, on a développé un algorithme qu'on appelle Glouton. Donc, on tenait à avoir des décodeuses qui venaient de toutes les villes de France, donc de beaucoup de laboratoires, Paris et province. On souhaitait décrire beaucoup de sujets traités dans nos laboratoires. Donc, on a beaucoup travaillé sur les thématiques pour avoir des thématiques très diversifiées. Et on a beaucoup aussi travaillé sur la notion de parcours. Donc, on a des décodeuses qui sont passées par des grandes écoles, d'autres par l'université, d'autres par des écoles d'ingénieurs intégrés. Et donc, l'idée, c'était d'incarner la diversité des parcours, des personnes, des thématiques traitées et des domaines scientifiques.
Claire Mathieu, Sarah Cohen-Boulakia, est-ce que vous avez eu des réactions dans votre entourage après l'apparition de cette bande dessinée? Est-ce que les gens ont été étonnés en lisant vos portraits respectifs, Claire?
J'en ai pas parlé à mes voisins. En revanche, j'ai apporté la BD avec moi en cours et je l'ai fait passer dans les rangs, hein, dans mon cours de licence. Et j'ai entendu une étudiante qui disait « Ah, c'est génial !»
Ah, donc ça fait plaisir.
Oui.
Et vous, Sarah?
Alors moi, j'ai beaucoup joué sur ma fille et sur ses copines. Donc, puisqu'elle a 14 ans et qu'elle est exactement dans l'âge qui est ciblé dans cette BD-là. Et mais ce qui leur a plu, c'est effectivement cette diversité. Se rendre compte que l'informatique, on est loin du geek. On est dans quelque chose de particulièrement ouvert et de particulièrement divers.
Anne Siegel, un atelier a été organisé à Lille avec des lycéennes autour de la bande dessinée. Quels sont les retours que vous avez eus?
Donc c'est un atelier organisé par Animat avec donc des chercheurs et des chercheuses de Lille. Et effectivement, les retours qui nous ont été transmis sont assez intéressants. Donc je peux les citer, en tout cas ce qui a été noté. J'ai bien aimé les retours. C'est beaucoup mieux qu'un site internet ou un gros pavé où je n'aurais jamais tout lu en entier. J'aurais moins appris. Donc ça, c'est la partie ludique, on va dire. Et le point qui, moi, m'a beaucoup touchée, c'était le fait que c'est l'incarnation des parcours. Donc on a eu des phrases. Elles ont dépassé des barrières pour réussir. Ça donne de l'espoir. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je me sens proche d'une des chercheuses parce que je n'ai pas envie de faire une prépa. Donc ça, c'était aussi un point sur l'orientation. On voit qu'il y a aussi la notion de dépasser les embûches qui est ressortie, effectivement. Si cette personne-là a réussi, alors je dois pouvoir aussi le faire. Donc on a vraiment mesuré, enfin, j'y étais pas, hein, donc les personnes qui étaient présentes ont mesuré l'incarnation des parcours qui pouvaient être faits à l'aide de cette BD.
Alors, dans les décodeuses du numérique, Emmanuel Christensen, ingénieure de recherche au CNRS, raconte que ses seules références de femmes scientifiques, quand elle s'est lancée dans cette voie, étaient Lisbeth Salander, l'héroïne surdouée de la saga Millennium, et les ingénieurs au féminin de la NASA, dont elle ne connaissait même pas le nom.
Les Russes ont un satellite espion qui prend des photos et Dieu sait quoi encore. Mettez-nous là-haut. On ne peut pas justifier un programme spatial qui n'est rien dans l'espace.
On va finir chômeuse si on continue dans cette espèce de charrue.
40 km, t'as qu'à les faire à pied.
Ou tu prends le bus, mais à l'arrière.
Nous allons envoyer un homme dans l'espace.
Si on le ramène trop tôt, il sera carbonisé dans l'atmosphère.
J'ai besoin de calculs qui n'existent pas encore. Trouvez-moi un mathématicien, avant que les Russes plantent leur drapeau en plein milieu de la Lune.
Vous avez vos papiers?
NASA, monsieur l'agent.
Eh ben, je savais pas qu'ils engageaient des...
Des femmes, il y en a beaucoup. Qui travaille au programme spatial.
Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale.
Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire.
Il n'y a jamais eu de gens de couleur ici. Ne me faites pas honte.
On n'a pas vidé ma corbeille.
Pardon, je ne suis pas la femme de...
Vous devriez être ingénieur.
Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible.
J'ai un vaisseau spatial au-dessus de ma tête. Nous vivons l'impossible.
Le système de traitement de données IBM.
Nous devons apprendre à le programmer.
Bravo, chérie.
La NASA n'engage pas de femmes en ingénierie.
Chaque fois que nous avons l'occasion d'avancer,
je demande à assister à la réunion.
Il n'y a pas de protocole d'admission pour les femmes.
Il faut reculer la ligne d'arrivée.
Vous devriez déjà nous remercier de vous éviter le chômage.
La bande-annonce du film américain « Les figures de l'ombre » sortie en 2016. Alors, le film raconte comment, dans l'Amérique ségrégationniste, trois femmes afro-américaines, trois scientifiques exceptionnelles, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, ont permis aux États-Unis donc, de prendre la tête de la conquête spatiale et de mettre l'astronaute John Glenn en orbite. Est-ce que ces trois femmes, Claire Mathieu, sont des rôles modèles pour vous?
Je pense que j'ai beaucoup de modèles autour de moi. Elle, pas spécialement, mais certainement, il y a beaucoup de femmes dont la réussite m'a inspirée.
Par exemple ?
Marie Curie.
Je crois que c'est le nom donné le plus fréquemment.
Marie Curie, mais il y a aussi ma grand-mère qui était prof de physique
et
qui a failli avoir des cours avec Marie Curie.
Ah, donc, et vous, Sarah ?
Alors non, moi je dirais pas Marie Curie, parce que Marie Curie, elle me semblait inaccessible. Donc elle était parmi nos modèles, mais j'avais probablement pas cette prétention directement. J'ai eu des gens effectivement autour de moi. Relativement peu de modèles féminins, mais c'est tout du long dans mes enseignantes essentiellement à l'université que j'ai pu rencontrer un certain nombre de femmes qui finalement ont joué vraiment des rôles, j'allais dire d'anges gardiens, qui sont venues me rattraper lorsque j'allais par exemple pas dans la bonne réunion pour m'envoyer faire justement de la recherche et me dire que c'était à la réunion sur la recherche qu'il fallait que j'aille.
Oui, vous dites qu'elles sont absolument géniales.
Ouais.
Et parmi elles, il y a Claire Mathieu.
Parmi elles, il y a Claire Mathieu.
Anne, c'est important d'avoir des rôles modèles, justement, des femmes dans lesquelles les lycéennes, les collégiennes, voire les écolières peuvent admirer.
Un certain nombre d'études montrent que c'est fondamental et que c'est primordial, quoi. C'est-à-dire que pour combattre les stéréotypes sur la place des mathématiques et de l'informatique dans la société, il faut pouvoir incarner les personnes, il faut pouvoir se projeter. Et effectivement, que ce soit les figures de l'ombre ou le modèle que peut représenter Claire ou Sarah, parce qu'elle oublie qu'elle est un rôle modèle aussi, sont fondamentaux pour montrer que justement les informaticiens et informaticiennes ne sont pas que des geeks hackers boutonneux, mais exercent des professions variées, des recherches variées et permettent justement de développer un certain nombre de compétences dans lesquelles les filles vont pouvoir s'incarner.
Mais comment s'identifier quand dans les livres scolaires, par exemple, les livres de mathématiques, les seules photos sont des photos d'hommes ?
En leur faisant lire la BD des décodeuses. effectivement, il y a de plus en plus de travaux faits là-dessus, de projections, de vidéos mises à disposition des enseignants pour justement casser un petit peu ces modèles. Et ensuite, on peut aussi faire évoluer quand même les livres en mettant en avant un certain nombre de femmes qui ont contribué à la science, dont les contributions ont été effacées par un certain nombre d'effets historiques, mais qui sont tout aussi importantes.
C'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda.
Tout à fait.
Il existe encore cet effet Mathilda ?
Alors on en discutait tout à l'heure avant de rentrer en séance et la conclusion était oui. Donc un exemple classique, pas en numérique, c'est celui de la découverte de l'ADN hein, qui a été attribué à Watson et Crick et qui ont ensuite reconnu qu'en fait c'était Rosalind Franklin qui avait fait une bonne partie du travail qui lui avait pas été attribué. Et effectivement au quotidien on a le sentiment parfois que la parole des scientifiques femmes est moins écoutée, moins prise au sérieux que la parole des scientifiques hommes. Donc c'est ça qui va générer l'effet Mathilda. Oui.
Et il y a un problème aussi au niveau des exercices, puisque pas mal d'exercices dans les livres de maths perpétuent encore la vision sexiste de la répartition des tâches entre l'homme et la femme.
C'est ce qui a été observé à la lecture d'un certain nombre de livres de maths il y a 4 ou 5 ans. Donc c'est quelque chose un certain nombre de personnes ont sonné l'alerte sur ces stéréotypes propagés dans les exercices et les éditeurs sont normalement en train de faire évoluer les choses.
Et il y a des directives très sévères de l'éducation nationale en la matière ou pas ?
Je n'en connais pas en tout cas.
Donc il faut sensibiliser aussi au niveau du ministère ?
Je vous laisse dire ça.
Anne-Cécile Orgery, qui est chercheuse en green computing, raconte dans la BD qu'elle était bonne en maths au collège, mais que le prof disait à son copain Jean-Pat, tu seras ingénieur, alors qu'à elle, il disait, tu feras une très bonne prof de maths. Est-ce qu'on peut dire que l'enseignement est encore sexiste en France ? Qui veut répondre ? Anne ?
Enfin, je n'ai pas envie personnellement de montrer du doigt les enseignants et les enseignantes parce qu'ils font un travail remarquable et pas simple. Par contre, je pense que la vision du numérique, des mathématiques et de l'informatique est genrée et sexiste en France et les enseignants ne font que propager cette vision. Donc je pense que le problème, ce ne sont pas les enseignants, c'est la société sur laquelle il faut agir.
Claire Mathieu, vous racontez dans le portrait qui vous est consacré dans les décodeuses du numérique que vous êtes tombée amoureuse des algorithmes. À quel âge avez-vous eu ce coup de foudre ?
Alors, je ne connaissais pas l'informatique ni les algorithmes quand j'étais enfant, mais j'ai toujours aimé les nombres, le calcul. En sixième, j'étais fascinée par les nombres premiers. J'ai découvert les nombres premiers, on nous en a parlé en classe, on nous a fait une petite démonstration comme quoi il y avait une infinité de nombres premiers, et j'ai trouvé ça merveilleux.
Et alors donc, vous vous êtes passionnée pour les maths, pour la logique, pour la résolution des problèmes en tout genre. Mais comment en êtes-vous venue précisément à décider de travailler sur les algorithmes ?
Eh bien, J'étais partie pour faire des maths, mais je savais que je voulais faire des maths assez concrètes, peut-être de la théorie des nombres, peut-être de la combinatoire. Et quand j'étais étudiante, une année, ma troisième année d'études, on m'a dit, cette année, il faut suivre un cours d'informatique, parce que pour les futurs scientifiques, on leur dit de suivre un cours d'informatique. Donc je l'ai fait un peu à reculons, et j'ai adoré. Et donc l'année suivante, j'ai bifurqué vers l'informatique.
Et vous êtes devenue une spécialiste des algorithmes.
Voilà, c'est ça.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire. Toi, tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête. Toi, la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
Santé, le nouveau Stromae sur RFI dans Autour de la question. Nous continuons à parler des décodeuses du numérique, cette bande dessinée publiée par le CNRS qui met en lumière 12 chercheuses, dont Claire Mathieu et Sarah Cohen-Boulakia, qui sont à mes côtés en compagnie d'Anne Siegel qui a supervisé le projet. On parlait tout à l'heure des algorithmes. Ils n'ont pas forcément bonne presse. On leur reproche de créer un effet bulle. Alors, reproche justifié ou pas, Aurélie Jean, docteur en sciences numériques, qui vient de publier Les algorithmes font-ils la loi ? Était l'invité le 8 octobre de l'émission C'est à vous sur France 2.
Alors l'effet bulle, c'est un effet qui a été théorisé par Ellie Pariser, qui est en fait l'idée que sur les réseaux sociaux, par exemple, on va statistiquement, algorithmiquement, classer les utilisateurs dans des classes en fonction de la similarité statistique de leur comportement et de leur profil. Ce qu'on va aimer, ce qu'on va partager, ce qu'on va écrire en commentaire les gens qui nous suivent et les gens qu'on suit.
On peut facilement que ça nous mettre dans des classes.
Voilà, donc on met les gens dans des classes, mais j'ai envie de dire, c'est un algorithme classique que moi-même j'utilise dans mon travail. Donc c'est pas un problème. Cela étant dit, lorsqu'on utilise ces algorithmes, on se sert de ça, de ces classes, pour ensuite proposer des contenus ciblés, parce qu'on va proposer des contenus que d'autres gens dans notre classe aiment. Voilà, en théorie, qu'on va aimer en retour. Cela étant dit, si on va trop loin, trop de manière extrême dans ces algorithmes et comment on va classifier les gens. On va créer donc des bulles, des classes rigides où les gens ne passent pas d'une classe à l'autre et restent dans leur bulle. Et une bulle, on va créer une bulle d'opinion et d'observation parce qu'au final, on va ne voir que le contenu que les gens de notre classe voient. Et donc, on va observer le monde de manière biaisée et on va l'analyser également de manière biaisée, quitte à confirmer nos propres biais dans notre classe.
C'est pour ça que vous conseillez de duper un algorithme plutôt que d'avoir peur de lui? Comment est-ce qu'on dupe un algorithme?
Alors, bien sûr, duper, c'est complémentaire à plein d'autres solutions. Hein. Ce n'est pas la solution. Mais en fait, par exemple, typiquement, moi, j'ai un compte Twitter où je vais suivre des comptes auxquels je n'adhère pas pour essayer de booster les choses et puis de voir un peu ce qu'il va me proposer. Et puis surtout, j'ai aussi plein de manières de travailler pour faire des recherches sur mon moteur de recherche de manière privée, etc., pour minimiser cet effet de biais sur mes propres usages. À peu près, voilà. Mais ce n'est pas suffisant.
Claire Mathieu, est-ce qu'il faut suivre le conseil d'Aurélie Jean et duper les algorithmes ?
Je vous avouerai que moi aussi, je fais un peu ça.
Ah !
Par exemple, sur mon compte Twitter, à chaque fois que je vois arriver une pub, quelque chose de sponsorisé, hop, je bloque. Et au bout de quelques mois, on voit arriver des choses très étranges parce que le Twitter ne sait plus quoi me proposer puisque je bloque tout. Donc, je me trouve exposée à des choses un peu aléatoires. Cela dit, il y a des domaines où c'est bien qu'on nous propose des choses qui ressemblent à ce qu'on est allé voir. Par exemple, quand je vais lire des articles de recherche sur certains sujets qui m'intéressent, sur lesquels je fais de la recherche, eh bien, si je recevais des messages qui me disent « Voilà, il est sorti tel article qui, d'après vos recherches, pourrait vous intéresser », eh bien, je serais contente. C'est un usage de cette classification qui est intéressante. En revanche, l'usage qui se faisait depuis longtemps, même avant le numérique, de regarder les gens, de prendre quelques catégories, de dire voilà, c'est une femme qui vient de tel pays, bon, donc elle est comme ça. Ben ça, nous savons très bien que ça ne fait que enfermer les gens et ça les empêche de montrer la richesse de leur personnalité et de développer leur potentiel.
Donc aujourd'hui, les algorithmes sont plus affinés, je dirais, si on peut dire
Ils sont plus affinés, mais quand ils sont utilisés pour un bon usage, ça peut être précieux. Donc un algorithme finalement, enfin plutôt un programme, le numérique, c'est quelque chose de très puissant. Et donc tout dépend de l'usage qu'on en fait. Si c'est comme tout ce qui est du pouvoir, on peut l'utiliser pour le bien, l'amélioration de notre vie, de la condition humaine, ou on peut l'utiliser d'une façon déviante.
Pour vous, donc, les algorithmes sont un facteur de progrès, s'ils sont bien utilisés?
Oui.
Mais le problème, Anne Siegel, c'est que ces algorithmes sont essentiellement écrits par des hommes et on en voit les conséquences.
Oui, ce sont des éléments qui ont été mis en évidence. C'est un exemple mis en évidence par Isabelle Collet, qui est une chercheuse en sciences humaines sur les enjeux du numérique, consistait à simplement faire une expérience sur son smartphone et de demander à son assistant vocal où trouver un préservatif d'abord. Et donc on lui a indiqué la première pharmacie et ensuite où trouver un tampon et on lui a indiqué la première imprimerie. Oui. Donc là, on voit qu'il y a des biais personnel de la vie du quotidien, et ce ne sont pas les seuls biais, mais ça montre qu'effectivement les algorithmes faits par des hommes, parce que c'est principalement des hommes qui travaillent actuellement dans le numérique, peuvent avoir des biais qui impactent la vie du quotidien, et ça motive d'autant plus à avoir de la diversité parmi les personnes qui sont employées dans ce domaine.
Claire Mathieu, vous avez passé une partie de votre carrière aux États-Unis et vous racontez un entretien avec la présidente noire de l'université de Brown, et elle vous dit « Miss Mathieu », enfin je suppose qu'à l'époque elle devait vous dire « Miss Mathieu », il ne faut jamais vous censurer. Tout ce que vous risquez, c'est un non. Est-ce que cette phrase est devenue un peu votre devise ?
Ça m'a beaucoup frappée. Oui, j'ai beaucoup apprécié de recevoir ce conseil parce que quelquefois, on a tendance à ne pas candidater quelque part, ne pas se proposer pour faire telle ou telle tâche ou demander tel ou tel financement qui pourrait nous intéresser par peur de ne pas réussir. Mais en fait, si on ne candidate pas, on ne va pas réussir. Et si on candidate, le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'on nous dise non. Mais ce n'est pas grave, quoi. Et donc j'ai appliqué ça. Je m'en suis rappelée assez souvent. Et je me suis dit, à chaque fois qu'il y avait quelque chose où j'hésitais, je me suis dit, eh bien, allons-y, on verra bien.
Sarah Cohen-Boulakia, vous avez fait votre post-doc, c'est-à-dire vos études après votre doctorat à l'université de Pennsylvanie, aux États-Unis aussi. Est-ce que c'est plus facile, d'après vous, pour une scientifique de faire carrière là-bas qu'en France ?
Alors, faire carrière, c'est différent que de faire de la recherche. Faire carrière, c'est vraiment différent en France, puisqu'il y a cette notion d'atteindre ce qu'on appelle le tenure, donc l'équivalent d'avoir un poste fixe. Nous, on a cette notion de CDI, CDD et fonctionnaire, et c'est pas le même système du tout aux USA. Par contre, dans la vie de tous les jours, en tant que chercheur, c'est évident, en tout cas dans les grandes universités américaines, qu'il y a une très forte différence. En termes, par exemple, de soutien administratif, lorsqu'on monte un projet, lorsqu'on veut faire une mission, on a un soutien administratif beaucoup plus fort, même si ici, on a un certain nombre d'administratrices qui sont très à la fois compétentes et qui font de leur mieux. Il y a un niveau de service au niveau des USA qui est absolument, qui est pas comparable.
Et vous avez retenu la même chose que Claire Mathieu, il ne faut jamais se censurer, s'interdire de demander ?
Oui, tout à fait. C'est quelque chose de très fort. Et je dirais aussi qu'il y a, aussi une vraie différence très forte, c'est sur le fait que, sur le fond, aux USA, ce qui compte, c'est le résultat. Moi, quand je faisais de la recherche, ce qui m'importait, je devais à un moment donné organiser une conférence internationale avec 200 chercheurs. Il se trouve que j'étais enceinte. J'ai organisé ma conférence et entre-temps, j'ai accouché. Et puis, j'ai eu même mon petit bébé dans mon bureau. Personne ne m'a posé de questions là-dessus. Ça s'est fait tout à fait naturellement. En France, c'était impensable.
Et c'est toujours le cas aujourd'hui ? Il y a toujours une réticence par rapport aux maternités des chercheuses ?
On progresse. Je dirais qu'on progresse. Donc, un des points sur lesquels on insiste beaucoup dans nos laboratoires d'informatique, c'est sur le fait de mettre à disposition des salles d'allaitement, typiquement pour les chercheuses. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, elles se sentent légitimes à les demander, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, tout n'est pas parfait, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on voit apparaître des demandes qu'on ne voyait pas apparaître avant.
Et à propos des expériences à l'étranger, Lucille Sassatelli, qui est une chercheuse en réalité virtuelle, raconte dans la BD les remarques de certains collègues. Tu choisis ta carrière tu préfères ta carrière à ton mec. Comment va tenir ton couple si tu pars ? Et Lucille explique qu'elle a mis beaucoup de temps à conscientiser ce sexisme subtil. Est-ce que vous aussi, vous avez été les unes ou les autres confrontées à ce genre de remarques, du sexisme ordinaire au cours de votre carrière, Sarah ?
Oh oui. De nombreuses fois. Si je reviens sur l'idée d'avoir un enfant, je me suis mariée durant ma thèse et on m'a expliqué naturellement que, et ce sont des collègues femmes hein, d'ailleurs qui m'ont tenu ces propos, qu'il fallait surtout pas que je fasse d'enfant trop tôt, que ça allait briser complètement ma carrière, qu'il était très important d'attendre. Une fois arrivée aux USA, à un moment donné, j'en ai parlé à ma directrice de postdoc qui m'a dit qu'elle comprenait même pas ma question, que ma vie, j'en faisais ce que je voulais et que bien sûr j'étais la bienvenue pour continuer à travailler avec elle dans les conditions que je souhaitais du moment que les choses étaient faites.
Un autre témoignage, Claire, est-ce que vous aussi, vous avez été confrontée
globalement,
à ce genre de
remarques ? J'ai plutôt eu un environnement favorable, plutôt des gens qui m'encourageaient, plutôt que le contraire. Mais enfin, à l'occasion, il y a eu quand même quelques petits incidents. Par exemple, qu'on me prenne pour la secrétaire du directeur d'équipe, parce que mon bureau n'était pas loin, que j'étais une femme.
Ça fait plaisir.
Mais c'est pas très grave, j'assume.
Silence, baby, let me
Easy on Me, le nouveau single d'Adèle sur RFI. Ce qui frappe dans cette bande dessinée, les décodeuses du numérique, c'est de voir à quel point vous n'êtes pas des chercheuses enfermées dans un bureau ou un laboratoire, fermées au monde extérieur, mais au contraire, vous travaillez en équipe, parfois avec l'étranger, et souvent sur des problématiques d'actualité. Claire Mathieu, vous avez travaillé récemment, par exemple, sur le Covid.
Oui, c'est vrai. Quand l'épidémie a commencé, est arrivée, il y a eu un groupe de travail qui s'est mis en place, mode Covid, pour essayer de faire dialoguer des gens de spécialités différentes et pour essayer de voir comment on pourrait modéliser l'épidémie et aider à prévoir les scénarios d'évolution possibles. Et donc, moi, en tant qu'informaticienne, ça m'intéressait de participer. Et avec un petit groupe de gens, nous avons essayé de modéliser l'évolution de l'épidémie dans des écoles en utilisant des graphes de contact et en implémentant quelques mesures, quelques gestes barrières en regardant les faits. Et donc, j'ai trouvé que ça a été l'occasion de discuter avec des gens d'autres disciplines, de voir comment eux, ils travaillaient et puis d'essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice des recherches pour lutter contre l'épidémie.
Sarah, vous avez travaillé sur la lutte contre le cancer.
Oui, mais j'ai aussi travaillé sur le Covid. Ah. Donc moi, j'ai dans le même contexte, mais donc pas du tout au niveau statistique. Donc dans le cadre justement de cette crise du Covid, j'ai coordonné une équipe assez importante d'ingénieurs, d'enseignants-chercheurs et de chercheurs sur le fait d'essayer d'extraire de l'ensemble de ce qu'on appelle les registres des essais cliniques, l'ensemble des informations dont on disposait. Donc être capable en temps réel de dire très rapidement quels sont les traitements actuellement qui sont dans les différentes phases d'essais cliniques, de même pour les vaccins, et tout ça en collaboration extrêmement étroite avec un certain nombre de collègues médecins, épidémiologistes, derrière, qui travaillaient eux-mêmes avec l'OMS.
On va s'attarder sur votre profession, bio-informaticienne. Expliquez-nous votre travail.
Alors, c'est pour moi le plus beau métier du monde, sans hésiter. Donc, en fait, dans la bioinformatique, l'idée, c'est d'utiliser des méthodes informatiques, donc de concevoir des méthodes informatiques qui vont répondre à des problèmes biologiques. Donc, ça peut être particulièrement vaste. On peut, par exemple, faire des algorithmes comme fait Claire pour essayer de mieux comprendre l'évolution des espèces. Donc, ça, c'est assez théorique, c'est assez profond. On peut aussi faire des choses qui peuvent être un petit peu plus pragmatiques, mais tout aussi complexes, comme par exemple, à partir d'un certain nombre d'analyses médicales, faire une prédiction sur le fait que vous allez avoir ou non une maladie parce que vous avez des similarités avec d'autres patients au niveau de vos données. Et donc, c'est un vrai travail d'enquête. C'est pour ça que dans cette BD, je me suis retrouvée en Sherlock Holmes, hein, avec ma loupe.
Oui, parce que vous jouez les détectives. Vous devez aller chercher des infos cachées au milieu des fameuses big data.
C'est ça. Donc, on a en base de données bioinformatique presque aujourd'hui 2000 sources différentes, c'est-à-dire 2000 points d'accès dans lesquels sont présents de très gros volumes de données. Et le but du jeu, c'est de découvrir est-ce que dans ces données, il y a des choses qui sont très proches, qui sont corrélées. Est-ce que justement quel type de complémentarité on va pouvoir extraire de ces données pour aller vers des connaissances?
Parce que vous expliquez qu'un même objet biologique peut être présent mais avec un nom différent dans des dizaines de bases de données.
Et oui, par exemple, prenez le gène. Voilà, on pourrait se dire le gène, c'est la base de la biologie moléculaire. Évidemment, on sait nommer les gènes, mais en fait, un gène, c'est rien d'autre qu'une séquence. Et puis, on sait au fur et à mesure de l'évolution des espèces que cette séquence, elle a pu bouger un petit peu. Souvent, on a nommé les gènes, par exemple, parce qu'ils étaient connus pour être liés à une maladie. Et puis, en fait, on peut les retrouver aussi comme étant ayant des mutations dans d'autres maladies. Du coup, selon les recherches qui ont été faites, ce même gène, il n'a pas été nommé de la même façon. Et donc, on le retrouve dans des bases différentes. Et c'est au fur et à mesure du temps qu'on va se rendre compte qu'il s'agit du même objet biologique.
Alors à propos des big data, les hôpitaux de Paris se sont fait voler début octobre les données d'1 400 000 personnes venues faire un test Covid. Écoutez ce reportage de France 24.
Si d'un simple test, vos données se retrouvaient accessibles sur Internet. En France, quelques 500 000 tests sont réalisés chaque jour. Nadine Stoltz a fait le sien fin août. La semaine dernière, elle reçoit ce mail.
France Test a décelé une potentielle tentative d'intrusion non avérée.
Comme elle, 700 000 personnes seraient concernées.
Il me dit comment en 2021 ça, des données comme ça puissent être accessibles aussi facilement. Si ces données personnelles tombent dans des mains de gens mal intentionnés.
Derrière le résultat d'un test se cachent de nombreuses informations. Nom et prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, adresse, email, téléphone, autant de données qui visent à faciliter le traçage des cas positifs. Pour les stocker, il existe bien un portail gouvernemental, dédié et sécurisé, le SIDEP. Un site délaissé par certains professionnels qui le jugent trop complexe et chronophage. Des données médicales particulièrement prisées des pirates informatiques. La date précise de votre dernier test, par exemple, contribue à rendre plus crédible encore de potentiels mails frauduleux. Alors attention aux arnaques.
Si jamais on vous envoie un mail disant « Bonjour, c'est votre pharmacie, on doit vous rembourser 10 euros pour votre test Covid hier, mais si de cliquer ici et de mettre votre numéro de carte bancaire », il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne que si on vous envoie la même chose sans vous dire quand est-ce que vous avez été testé.
La CNIL a ouvert une enquête sur la faille de sécurité chez France Test. La société risque jusqu'à 20 millions d'euros d'amende.
Sarah Cohen-Boulakia, vous n'êtes pas spécialiste en cybersécurité comme votre collègue Caroline Fontaine, une autre décodeuse numérique de la BD, mais vous comprenez que ce genre de vol de données inquiète autant le grand public que les entreprises, que les grandes administrations. Pourquoi n'a-t-on pas assez de pare-feu pour se prémunir contre ce genre de vol ?
Alors, je voudrais d'abord dire que ce qu'on voit actuellement, c'est que personne n'est à l'abri. Si Facebook s'arrête de fonctionner pendant un certain temps, si on a des présidents et autres de différents États qui se retrouvent à avoir des logiciels un peu particuliers sur leur téléphone, c'est bien la preuve que le problème n'est pas simple. Donc, j'allais dire, ma première réaction, elle est de dire que, quelque part, je n'ai pas moi à juger de la sécurité d'un certain nombre de systèmes, même si, évidemment, en tant que citoyenne, je comprends bien la problématique. Concrètement, là, dans ces différentes affaires, on a affaire à ce qu'on appelle des failles zéro day, c'est-à-dire des failles de sécurité qui sont pas pour lesquels on n'a pas du tout de recul. On a des failles qui sont connues, dans lesquelles là il y a un certain nombre de patchs qui sont en place et autres, et où là on peut dire quelque chose n'a pas encore été fait. C'est pas le cas dans les différents cas dont on vient de parler. On est sur du 0D, c'est-à-dire que finalement le hacker il a trouvé une faille dont personne avant lui n'avait encore conscience. Donc ce sont des cas qui sont particulièrement difficiles à tester et à comprendre. Je dirais que le risque zéro, il n'existe pas, qu'on a aujourd'hui un besoin d'utiliser l'informatique systématiquement dans l'urgence, et que donc dans ce contexte-là, ce type de problème peut arriver. Après, on sait en prendre des leçons. Et là, en l'occurrence, dans ces différents cas, ce qu'on sait bien, c'est que il va falloir être beaucoup plus vigilant, je dirais encore plus vigilant, sur le fait de ne pas stocker dans ce qu'on appelle des caches les données qui transitent d'un serveur à un autre. On a eu tendance, peut-être un petit peu trop souvent, à garder de façon temporaire des données à différents endroits. Ça fait partie des bonnes pratiques qui s'accélèrent au niveau des bonnes pratiques de cybersécurité et qui sont suivi, mais je dirais que le problème il est sûrement pas français, il est purement international, et je vais me permettre de dire que j'aimerais bien qu'on regarde aussi la crise et l'imaginer cette crise sans l'outil informatique. Vous disiez tout à l'heure que derrière les algorithmes il y avait des développeurs, mais c'est vrai, il y a des humains, et des humains eux aussi ils ont des failles, et donc ces systèmes ils sont particulièrement complexes, et les personnes qui les programment n'ont pas toujours une vision complète et globale de comment est-ce que ces différents systèmes les uns vis-à-vis des autres vont être utilisés. Et donc voilà, je pense qu'il faut aussi rendre l'informatique ouverte à tous, c'est aussi accepter que de temps en temps, il y ait des erreurs.
Dans le portrait qui vous est consacré dans la BD, Sarah, vous dites « Au lycée, je ne rentrais pas trop dans les cases. J'étais très bonne en philo et en maths, mais je détestais le par cœur. Est-ce que le système français a tort d'opposer les matières littéraires et scientifiques ?»
Alors, sur les matières littéraires et scientifiques, oui, ça c'est clair. Un chercheur aujourd'hui, il a besoin d'abord, et un scientifique aujourd'hui, il a besoin d'abord de structurer sa pensée. Décomposer un théorème en lemme, se poser des questions scientifiques, émettre une hypothèse, ne pas mélanger l'hypothèse et la conclusion, ce n'est pas que des compétences qui sont des compétences scientifiques. Quand on construit une dissertation avec une thèse, antithèse, synthèse, on est en fait en train de faire une forme de mathématiques aussi. Quand on illustre et qu'on prend un exemple associé à une définition, dans une dissertation, on fait aussi des sciences. Et donc,
Anne Siegel, est-ce que cette séparation, cette opposition entre les matières littéraires et scientifiques empêche aussi les filles peut-être de se projeter ou de s'engager dans la voie scientifique ?
Je dirais que la difficulté, c'est le fait d'avoir à faire des choix. Donc effectivement, il y a une réforme qui s'est mise en place dans les lycées actuellement et qui permet, qui encourage beaucoup plus de libre choix. Et on voit apparaître des doublettes ou des triplettes, des termes techniques de choix, en particulier pris par les filles.
Et une filière informatique a été mise en place.
Une filière informatique a été mise en place au lycée, mais les filles ne l'apprennent pas. Ça, c'est quelque chose qui désespère beaucoup de monde, qui perturbe aussi beaucoup de monde, parce que effectivement, les filles actuellement ne se tournent pas vers des filières purement informatiques, mathématiques ou physiques, mais préfèrent avoir des combinaisons qui sont plus larges et plus hétérogènes. Donc c'est une vraie préoccupation.
Est-ce qu'il faudrait instaurer des quotas dans les grandes écoles aussi ? Quelle est votre position par rapport aux quotas ?
Alors, dans les grandes écoles, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, la difficulté actuellement, c'est d'attirer des filles en classe prépa. Ça, c'est un premier point. Je ne suis pas sûre que le problème soit un problème de taux de succès entre les classes prépa et l'intégration dans les grandes écoles, peut-être pour certaines grandes écoles. La question sur les quotas se pose beaucoup pour les aspects recrutement de permanents, entre guillemets. Et là, je pense que les choses évoluent, entre guillemets. Enfin, je veux dire, on n'a pas le droit de mettre des quotas et c'est normal. Par contre, il faut faire attention au moins à faire en sorte qu'il n'y ait pas de biais négatifs dans les recrutements, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait au moins autant de filles candidates qui soient ensuite recrutées dans les grandes écoles ou promues à tous les niveaux.
Et les quotas dans les nominations pour les prix scientifiques, qu'est-ce que vous en pensez, Claire Mathieu ?
Je pense que la plupart des gens que je connais sont opposés à l'idée d'avoir des quotas stricts. En revanche, il peut y avoir des façons d'attaquer la recherche de candidats qui permet d'éliminer les biais qui peut-être existent. Par exemple, l'une des possibilités, c'est de faire, donc là on parle du problème des femmes et des hommes, faire deux listes, une liste de femmes, une liste d'hommes. Donc si on a un prix à décerner, si on veut retenir six noms, par exemple, pour la dernière phase, eh bien, il faut avoir trois femmes et trois hommes et commencer par regarder les dossiers des trois femmes. Et ensuite, quand on arrive au dossier des trois hommes, on se rend compte que les femmes sont il n'y a pas de différence de niveau entre les femmes et les hommes. Et donc, les femmes ont toutes leurs chances. Alors que si on laisse faire sans tenir compte du genre, on risque de ne pas penser à des femmes qui seraient moins visibles, bien que leur dossier soit tout aussi brillant.
Alors, on parle de ces nouveaux métiers du numérique, mais attention, avertit le journaliste Guillaume Pitron, numérique et écologie ne vont pas forcément ensemble.
Il faut quand même comprendre que le numérique repose sur un postulat qui est un leurre total. C'est l'idée que parce que nous allons vers le digital, nous allons nous affranchir de la matière. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux de pouvoir envoyer un email plutôt que d'avoir à écrire une lettre sur du papier qui est de la matière physique et de la faire transiter via une voiture qui génère du CO2. Mais en réalité, un email, ça a un coût environnemental considérable, un email. Et toute l'infrastructure, le léviathan numérique qui se trouve derrière un simple email et qui plus est derrière un algorithme, c'est quoi ? C'est des millions de milliards de kilomètres de câbles en cuivre. Ce sont des serveurs, ce sont des data centers, ce sont des fusées qui doivent envoyer des satellites et avec des ordinateurs qui doivent calculer la bonne orbite. Et donc, pour pouvoir mettre ces satellites sur la bonne orbite de manière à ce que ces satellites nous renvoient l'information en temps réel et nous géolocalisent sur nos téléphones portables. Et ça, c'est quoi ? C'est de la matière physique, ce sont des métaux rares. Et donc, sous couvert de nous affranchir de la matière, eh bien, en réalité, nous sommes retrouvés dans un système qui nécessite le recours exponentiel à toujours plus de métaux rares.
Guillaume Pitron, auteur de L'Enfer numérique, au micro d'Anne-Cécile Bras dans C'est pas du vent sur RFI. Votre réaction à ce que vient de dire Guillaume Pitron, le numérique ce n'est pas vraiment écologique. Qui veut réagir?
Je pense que je vais essayer de me lancer. Les déclarations de Guillaume Pitron, je les trouve un petit peu caricaturales quand même. Je pense que le numérique a un coût écologique, ça c'est clair, et on en a de plus en plus conscience. Ce que je trouve intéressant quand même dans l'intervention qui a été faite, c'est le fait justement que maintenant on est capable de mesurer ce coût écologique, ce qu'on ne faisait pas il y a une dizaine d'années. Donc il y a une vraie prise de conscience de ce coût écologique. Ensuite, il a aussi des bénéfices, ce qui n'a pas été dit. C'est-à-dire qu'effectivement, des câbles et des vidéos, ça coûte des métaux rares, mais ça évite de prendre l'avion quand on fait des visioconférences. Donc il y a un aspect coût-bénéfice qui est quand même important à prendre en compte. Et l'autre point sur lequel je voudrais réagir, c'est sur le fait que maintenant qu'on a pris conscience de ces enjeux, qui sont liés aussi à l'explosion du numérique ces dernières années, il y a d'énormes marges de progrès dans le fait de diminuer l'impact écologique du numérique, et c'est dans cette direction qu'on se dirige. Donc nos chercheurs et Anne-Cécile Orgery, qui est une autre décodeuse, travaillent au quotidien pour à la fois estimer le coût des différents serveurs dans les laboratoires par exemple, mais aussi pour proposer des nouvelles solutions moins énergivores.
Mais alors justement, une informatique plus verte et plus économe en énergie, ça donnerait quoi? Ce serait quoi?
Ce serait une informatique pour laquelle on ne laisse pas allumer les serveurs et les ordinateurs au quotidien si on n'en a pas besoin. Ça, c'est un premier point. Ce serait une informatique pour laquelle on ne change pas son smartphone tous les 18 mois, si ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est des choses assez simples à faire, pour lesquelles on peut travailler sur le recyclage aussi. Les matériaux se recyclent et actuellement, on ne le fait pas assez. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes d'optimisation et d'algorithmes qui permettent d'être plus efficaces.
Pour terminer, la fin de l'émission approche. Quels sont, d'après vous, les nouveaux métiers qui sont présentés dans cette bande dessinée, les décodeuses numériques, qui gagnent à être connues et qui pourraient séduire les lycéennes, les collégiennes, d'après vous, Sarah?
Bien, je dirais tous les métiers aux interfaces. On a souvent l'idée de l'informatique comme une discipline, comme vous le disiez au début, où on est seul, alors qu'en fait, c'est une discipline dans laquelle on travaille à plusieurs. Un informaticien conçoit un logiciel ou un algorithme pour répondre à un besoin. S'il n'a pas compris le besoin, ça n'a plus de sens. Donc on est vraiment complètement loin du geek tout seul dans sa cave. Hein. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc, aux interfaces, on peut avoir aux interfaces de la physique ou des couches qu'on appelle basses, donc la cybersécurité. On peut avoir aux interfaces de la biologie, donc moi étant bioinformaticienne. On a des interfaces autour de la robotique. On a aussi des SHS, donc les sciences humaines et sociales, où on va avoir des gens qui travaillent sur le data journalisme, par exemple. Ou avec les décodeurs du monde, hein, sur le tout ce qui va être fact-checking, vérification qu'un certain nombre de faits sont prouvés ou en tout cas associés à des choses vraies ou pas. Donc voilà, pour moi, les nouveaux métiers du numérique, c'est les métiers aux interfaces.
Anne Siegel.
Oui, et je voudrais rebondir aussi, on n'est pas obligé de ne promouvoir que des métiers aux interfaces, même si personnellement je suis aussi bioinformaticienne, mais c'est vrai que il n'y a pas de raison de considérer que les métiers actuels du numérique, hein, qui sont développeurs, ingénieurs, data scientists et autres, sont genrés et ne doivent être occupés que par des hommes. On n'est pas obligé de faire du pinkwashing pour les métiers du numérique. Ces métiers-là, les filles sont aussi légitimes à les exercer et à s'y amuser.
Et justement, vous prononcez le mot amuser, vous insistez beaucoup sur le côté ludique de la recherche.
C'est quelque chose qui est fascinant quand on discute avec les chercheurs ou quand on échange avec eux, et c'est ce qui s'est passé quand les décodeuses ont été interviewées. Ce qui est marquant, c'est de voir des pépites s'allumer dans leurs yeux quand elles nous parlent de leur recherche. Donc effectivement, les chercheuses et les chercheurs s'amusent au quotidien. Bon, ils ont des moments un petit peu plus difficiles, ça c'est certain, mais ils sont passionnés par leur job, et c'est quand même c'est passionnant de les voir s'amuser.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été nos invitées. Anne Siegel, Claire Mathieu et Sarah Cohen-Boulakia. Il faut lire la bande dessinée « Les décodeuses du numérique » aux éditions du CNRS. C'est ludique et on apprend plein de choses. Et si vous voulez gagner une BD, envoyez-nous votre nom et votre adresse sur la page Facebook de l'émission ou par mail à autourdelaquestiontoutattaché@rfi.fr. Merci à Caroline Fillette qui m'a aidée à préparer cette émission et à Hugo Violas qui l'a réalisée. À demain et portez-vous bien.